informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Ibrahim Bayili.
La charte de la transition sera adoptée à l'issue des assises qui sont prévues pour les 14 et 15 octobre prochains. En attendant, Athanase Boudou, membre fondateur du Front Patriotique, propose une consultation des fêtières de regroupement ou association légitime et reconnue. La demande de liberté provisoire du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana a été refusée ce mercredi par la justice militaire. L'audience a eu lieu ce mercredi. Dans la région de l'Est, 100 000 enfants n'iront pas à l'école cette année. C'est ce qu'ont annoncé ce matin des ressortissants de cette région en proie à l'insécurité. Et puis au Tchad, l'ancien chef de file de l'opposition tchadienne et vice-président du comité d'organisation du dialogue national inclusif, Saleh Kedzebo, a été nommé ce mercredi Premier ministre. Voilà pour le sommet, le développement dans un instant. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Adoption de la charte de transition, un ancien ambassadeur du Burkina au Canada propose une consultation des fêtières de regroupement ou association légitime et reconnue. Athanase Boudou, membre fondateur du Front Patriotique, souhaite par ailleurs une réduction des membres du futur gouvernement. Il s'est exprimé sur la situation politique nationale hier lors d'un point de presse à Ouagadougou. Moumouni Yaro.
Le secrétaire chargé de l'orientation et des relations avec les partis politiques du mouvement Front Patriotique préconise la réduction du train de vie de l'État, et cela à travers la réduction des postes ministériels. Athanase Boudou.
Pour moi, un gouvernement de 17-20 membres, c'est suffisant pour embraser tous les secteurs socio-économiques et politiques de ce pays. Et cela va même permettre de réduire le train de vie de l'État. Et ça va permettre aussi d'avoir assez de temps pour se consacrer à l'essentiel. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, on n'a pas besoin d'avoir un président et puis un premier ministre. Surtout dans un régime de transition d'un an et demi à deux ans.
Dans ce même élan, Athanase Boudou rejette d'ores et déjà toute idée d'installation d'une assemblée législative de transition.
À partir du moment où nous allons mettre en place une charte qui vient compléter la constitution, on n'a pas besoin, dans une phase de transition, de mettre en place encore une structure avec tout ce qu'on a comme reproche en termes de budget. On connaît, c'est qu'une assemblée mobilise comme ressource alors qu'on peut gagner simplement à mettre en place une assemblée consultative. Et cette assemblée consultative va à chaque fois être consultée par l'exécutif et qui va venir s'inspirer des aspirations des populations et puis gouverner par ordonnance. Comment, dans une transition, on va se permettre de mettre encore une assemblée législative pour légiférer quoi? C'est juste des trouvailles pour pouvoir se partager encore des perdiens. Et on a vu le passé récent, c'est que l'assemblée législative de transition a eu à mobiliser comme ressource et ça n'a pas servi à grand-chose.
Toujours selon Athanase Boudou, il faut une transition légitime et réussie qui a l'onction du peuple dont la charte s'appuie sur les fêtières de regroupement ou d'association légitime et reconnue.
Environ 100 000 enfants en âge d'aller à l'école resteront cette année à la maison si rien n'est fait. C'est l'interpellation faite par le Cercle, le comité engagé de réflexion pour la cause de l'Est, au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou ce mercredi. Un comité qui a vu le jour le 4 octobre dernier et qui a pour mission de réfléchir à des pistes de solutions. On en sait plus avec Fawzia Zongo et Valérie Guéret.
Dans toutes les provinces de la région de l'Est, seuls deux ont l'assurance de rouvrir les classes en cette année scolaire 2022-2023, ce pour cause d'insécurité. En effet, cela fait 7 ans que la région de l'Est traverse une crise sécuritaire sans précédent et les chiffres sont inquiétants selon le Cercle qui sonne l'alerte. Pascal Lankwande, rapporteur.
Cela fait 7 ans que nos petits-enfants, nos jeunes frères et sœurs ne partent plus à l'école. Plus de 7 ans, je vous dis, et aujourd'hui encore, on attend, et plus de 2 semaines après l'ouverture officielle des classes, sur 27 communes de la région de l'Est, seulement 8 communes ont ouvert les classes, et là aussi, seulement dans les chefs-lieux de communes, et 2 sur 7. Si ce qui a commencé va se terminer bien, selon les statistiques, les prévisions dans la région de l'Est nous donne à peu près 100 000 enfants en âge d'aller à l'école cette année qui resteront à la maison.
Face à la situation de plus en plus précaire, le comité envisage faire des propositions aux nouvelles autorités qu'il préfère ne pas divulguer pour des raisons sécuritaires. Moïse Lankwandé, membre du cercle.
Ils l'ont dit, il y a des choses de cuisine interne qu'on ne pourra pas vraiment vous dévoiler à cause de sa sensibilité. Mais nous disons à ces nouvelles autorités d'avoir un regard plus dynamique et surtout pas assez de paroles mais plus d'actes. Parce que nous, en tant que fils et filles, nous avons des initiatives. Mais seul, on va aller vite, mais avec les nouvelles autorités, on pourra aller très loin.
Les ressortissants de la région ont mis en place le cercle pour apporter des solutions idoines à cette crise sécuritaire. Il a pour mission de soulager la souffrance des populations.
Plusieurs centaines d'élèves ont marché hier à Djibo pour exiger la réouverture de les salles de classe. C'est au commissariat qu'ils se sont dirigés pour remettre leurs doléances au président de la délégation spéciale. En plus de la réouverture des classes, les élèves veulent le rétablissement des réseaux téléphoniques, la sécurisation de la province et celle de l'axe Djibo-Kongoussi. Si rien n'est fait, ils menacent de ressortir les jours à venir pour se faire entendre. Selon le gouvernement, à la date du 30 avril dernier, 4148 salles de classe étaient fermées du fait du terrorisme. La ville de Djibo est sous blocus depuis plusieurs mois. 70 tonnes de vivres avaient été acheminées le 7 octobre dernier par voie aérienne par l'armée burkinabé, soit plus de 10 jours après l'attaque d'un convoi de ravitaillement à Gaskende où 37 personnes, dont 27 militaires, avaient perdu la vie. Le mouvement Sauvons Djibo de Alain Traoré, dit Alino Faso et ses collaborateurs, ont été reçus aujourd'hui par le capitaine Ibrahim Traoré. Et on se souvient que 400 tonnes de vivres ont été collectées pendant 3 jours dans 10 villes du Burkina suite à une alerte lancée le 7 octobre dernier pour venir en aide à la ville de Djibo et aux autres zones en difficulté. Le capitaine Traoré a salué l'initiative et indiqué que les vivres seront acheminés dans les meilleurs délais dans les provinces concernées. La justice militaire a statué ce mercredi sur la libération provisoire du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, accusé de complot, détournement de biens publics, faux et usage de faux, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Au terme d'une audience qui a duré plusieurs heures, le tribunal a rendu son verdict. Le lieutenant-colonel reste en prison. Abdulaziz Zoulabou.
La demande de liberté provisoire pour le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana a été rejetée. À l'issue de débats de plusieurs heures, le tribunal militaire n'a pas été convaincu par la pertinence des arguments avancés par la défense. Quelques minutes auparavant, Maître Paul Kéré, avocat de la défense, était pourtant confiant.
Il y a un débat qui s'est instauré en ce qui concerne le blanchiment de capitaux. Il faut savoir que le blanchiment de capitaux n'est pas une infraction autonome. C'est une infraction sous-jacente, c'est-à-dire qu'elle découle d'une autre infraction principale. Quelle est cette infraction principale? Cette infraction principale, c'est le détournement de deniers publics qu'on reproche à Zungrana, qu'il conteste bien sûr. À partir du moment où pour cette infraction de détournement de deniers publics ou d'enrichissement illicite, il a été mis en liberté provisoire par la chambre de contrôle de l'instruction, évidemment, le blanchiment de capitaux en lui seul ne peut plus justifier sa détention à la Maca.
Emmanuel Zungrana reste en prison pour la suite de la procédure. Déception pour les partisans du lieutenant-colonel réunis plus tôt dans la matinée devant la justice militaire pour, disent-ils, lui apporter leur soutien. Le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, ancien commandant du 12e régiment d'infanterie commando basé à Waïguia, a été arrêté et placé en détention le 10 janvier 2022. Il est accusé de complot, détournement de biens publics pour usage de faux, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. 9 autres personnes ont été mises en examen et plus de 30 témoins auditionnés.
La team des Belles Rebelles, de retour pour de nouvelles aventures. Sensibiliser à travers le cinéma, c'est l'objectif visé par Canal à travers sa chaîne A+. Cette série TV, réalisée par Boka Diallo, a été présentée à la presse mercredi 12 octobre à Canal Olympia 6 à Pissi. La deuxième saison de la team des Belles Rebelles s'annonce encore plus captivante selon les responsables et ce, à travers l'histoire de 3 héroïnes investies d'une mission magnanime, celle de lutter contre les tares et injustices dont fait face la société africaine et du Burkina en particulier. Moumouni Tamboura nous fait le point.
Tina, Jamy et Bibi est le trio des jeunes filles qui ont joué le rôle de la team des Belles Rebelles dans sa deuxième saison. Composé de 52 épisodes de 26 minutes, le réalisateur Boubacar Diallo peint l'état de la société. Agiratou Kobe est le responsable des abonnements Canal+.
Eh bien, la team des Belles Rebelles, c'est vraiment une équipe jeune, dynamique. Ce sont des femmes qui traitent des sujets d'injustice qu'il y a dans la société. Ça dépeint de pas mal de mots qu'on peut enregistrer dans nos pays de façon générale, et particulièrement au Burkina Faso. Et c'était vraiment de bon ton pour Canal+, pour A+, de mettre en avant cette série, cette création qui est là à sa deuxième saison. On félicite Boubacar Diallo et toute son équipe. Ils ont été opérationnels, le rendu est formidable, les images sont exceptionnelles, la qualité est supérieure et franchement, on ne pouvait être en marge de cette saison-là.
Entièrement tournée au Burkina Faso, la réalisation de ce film est une fierté pour les responsables de Canal+. Dans ces épisodes, le trio se plonge dans une mésaventure en tentant de dénoncer l'État et de sensibiliser à travers l'humour. Parmi ces fléaux, viol sur mineurs, harcèlement sexuel, escroquerie. Issa Ouedraogo alias Baba Lagi.
La deuxième saison traite de tous les thèmes, notamment l'excision, le mariage forcé, le trafic des stupéfiants et autres, mais dans le traitement de ces thèmes-là, on le traite avec de l'humour pour permettre aux gens de bien suivre et comprendre un peu le message qu'on donne à travers.
La logique de la team des Belles Rebelles est de défendre les droits des hommes sans distinction, selon l'actrice Fabiola Badolo, alias Bibi.
Que la logique des rebelles, c'est défendre les femmes, les hommes et les enfants. Parce que souvent, il arrive qu'il y ait qu'on piétine certains droits des personnes. Donc, les rebelles sont là pour tout le temps pallier à ça.
Après une pause de 2 ans, Boubacar Diallo et Canal+ comptent conquérir davantage les fidèles abonnés à travers l'histoire de 3 héroïnes investies dans la lutte contre l'État et injustice dont fait face la société africaine. L'exclusivité de la team des Belles Rebelles sur la chaîne A+, du lundi au vendredi à 15h.
Au Sud-Soudan, plus de 900 000 personnes sont touchées par les inondations qui frappent ce pays, soit 2 fois plus qu'en septembre, selon une estimation publiée hier mardi par les Nations Unies. Les fortes pluies enregistrées dans le pays ont tué du bétail, détruit des cultures, des maisons, des ponts et des infrastructures de santé. L'ONU alerte sur des vagues de chaleur inédites. Elles devraient dépasser les limites physiologiques et sociales de l'homme au Sahel, dans la Corne de l'Afrique et en Asie du Sud et du Sud-Ouest, préviennent le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies et la Croix-Rouge dans un rapport publié lundi. Cette vague de chaleur pourrait causer des pertes en vie humaine, des mouvements de population et renforcer des inégalités, selon le rapport. Au Tchad, l'ancien chef de file de l'opposition tchadienne et vice-président du comité d'organisation du dialogue national inclusif, Saled Kadzebo, a été nommé ce mercredi premier ministre du Tchad par décret de Mahamat Idriss Déby Itno. Kadzebo, 75 ans, ancien journaliste, 4 fois candidat à la présidentielle contre feu le maréchal Déby et dont le parti avait rallié il y a 18 mois le gouvernement nommé par la junte militaire au pouvoir, est nommé premier ministre, lit-on dans un décret signé par le chef de l'État, suivant son portrait avec Kader Konaté.
Né à Léré, dans le sud-ouest du Tchad, le 27 mars 1947, Saled Kadzebo est un homme politique tchadien. Il est le président de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, UNDR, député à l'Assemblée nationale du Tchad et opposant au régime d'Idriss Déby. Saled Kadzebo est candidat aux élections présidentielles de 1996, 2001, 2006. Il arrive au second tour à l'élection présidentielle de 2016 avec 12,80% des voix, Idriss Déby ayant quant à lui obtenu 61,56% des suffrages exprimés. Très influent en 2018, il surprend le reste de l'opposition en acceptant de rencontrer le président Déby. En mars 2021, Saleh Kebzabo retire sa candidature et dénonce une militarisation évidente du climat politique après l'intrusion des forces de sécurité dans la résidence du candidat Yaya Diallo. Après la mort d'Idriss Déby en avril 2021, son fils Mahamat Idriss Déby prend le pouvoir lors d'un coup d'État. Kebzabo reconnaît la légitimité de l'autorité du Conseil militaire de transition formé par les militaires. En août 2021, Kebzabo est nommé vice-président du comité d'organisation Dialogue national inclusif chargé d'impliquer la société civile dans la mise en place d'un retour à la démocratie. Ce 12 octobre, Saleh Kebzabo, 75 ans, a été nommé premier ministre du Tchad par Mahamat Idriss Déby, remplaçant ainsi Albert Pahimi Badake, qui a présenté sa démission et celle de son gouvernement lors d'une audience ce mardi 11 octobre avec le chef de l'État, selon un communiqué de la présidence.
Omega Sport.
Parlons de la troisième journée en retard du championnat national de football de première division. Hier, le Real du Faso et le Royal FC ont fait match nul un but partout. L'AS Sonabel a défait l'AS Police par 2-0. Aujourd'hui, le Racing Club de Bobo-Dioulasso a laminé l'Étoile filante de Ouagadougou par 4-0. L'ASFB prend son premier point. Depuis le début de ce championnat, l'ASFA Yenega et l'ASFB se sont donc quittés sur le score nul et vierge, 2-0 buts partout. En Ligue des champions de l'UEFA, des équipes sont d'ores et déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Hier, le Real de Madrid a arraché son ticket en obtenant de nul un but partout face au Shakhtar Donetsk de Franck Lassina Traoré dans le temps additionnel. Manchester City, malgré son 0-0 à Copenhague et en ayant fini à 10 contre 11, est qualifié pour le second tour.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Les relations incestueuses entre les milieux d'affaires et la classe politique au pouvoir fondent l'activité économique dans nos pays. Et la chute d'un pouvoir et l'avènement d'un autre est synonyme de changement d'acteurs économiques, ce qui nuit à l'essor du secteur privé. Cette analyse est du professeur Mahamoudou Diarra, agrégé de faculté des sciences économiques à l'Université Norbert Zongo. L'invité de la rédaction répond aux questions d'Adam Skaled Ouedraogo.
Bonjour professeur Diarra.
Oui, bonjour.
Le Burkina Faso a connu deux coups de force en moins de 8 mois, une instabilité politique doublée d'une crise sécuritaire. Quelles peuvent être les conséquences économiques de ces deux facteurs?
Et les conséquences sont multiples. Vous savez que l'instabilité politique a clairement des effets négatifs sur l'activité économique. Ces effets peuvent être des effets directs et indirects. Quand on parle d'effets directs, c'est par exemple la destruction des biens d'autrui en situation de choc politique violent. C'est ce qui est arrivé par exemple en 2014 avec la destruction donc, d'entreprises et de biens privés. Mais dans les cas récents, comme moi, il n'y a pas eu de violence comme ça sur les biens privés. On ne peut pas parler donc de ces effets directs, mais les effets indirects peuvent être relevés donc à d'autres niveaux. Et vous savez par exemple que le coup d'État, comme celui de janvier 2022, qui est venu interrompre un cadre constitutionnel, a entraîné une suspension de certains financements émanant de nos partenaires au développement et qui a naturellement freiné les projets de développement qui étaient en cours d'exécution. Et l'arrêt de ces chantiers a eu un effet négatif immédiat sur les travailleurs qui se sont retrouvés au chômage. Aussi, il faut savoir que dans nos pays où les institutions ne sont pas très solides, l'instabilité politique entraîne des chamboulements institutionnels qui viennent freiner la mise en œuvre de l'action publique, toutes choses qui inhibent l'activité économique. Il ne faudrait pas également oublier ces relations incestueuses, j'allais dire, entre les milieux d'affaires et la classe politique au pouvoir qui fondent généralement l'activité économique dans nos pays. La chute d'un pouvoir et l'avènement d'un autre est synonyme d'un changement d'acteurs économiques, ce qui nuit considérablement à l'essor du secteur privé. Et c'est présent, l'instabilité politique devient un facteur déterminant de l'instabilité économique et tout changement, même mineur, à la tête d'un ministère peut entraîner ou peut entraver la mise en œuvre de grands projets d'investissement, d'autant plus qu'au sein d'un même parti politique au pouvoir, la remise en cause des actions d'un prédécesseur par le ministre entrant est monnaie courante, malgré bien sûr l'existence d'instruments de planification souvent bien définis dans chaque département ministériel. Vous avez également évoqué le cas de la secte de l'insécurité. Ça, c'est un autre volet. Notre pays a froid dans un contexte sécuritaire difficile depuis donc, 2015. Cela a naturellement des conséquences sur l'activité économique. Et il est évident que ces effets ne sont pas observés dans presque tous les secteurs donc, de la vie économique. Mais les plus durement touchés, c'est le secteur agricole, c'est-à-dire en milieu rural, au sens large, bien sûr, et le secteur de l'hôtellerie du tourisme.
En plus des performances économiques du pays, il y a les répercussions que cette situation peut avoir sur la perception des investisseurs. Alors, quel est votre regard là-dessus, professeur?
Et évidemment, il est clair que l'instabilité politique réduit l'engouement des investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, à s'engager dans des projets d'investissement de long terme qui sont porteurs de création de richesses et d'emplois pour les jeunes. Et cela parce que l'instabilité politique crée ce qu'on appelle de l'incertitude qui contribue à accroître le risque lié à l'investissement. Et donc, si la situation sécuritaire constitue déjà un frein pour l'investissement, l'instabilité politique que nous avons observée ces derniers 6 mois-là pourrait encore aggraver la résistance des investisseurs donc, à s'engager dans des projets d'investissement de long terme. Et mais ce qu'on peut retenir, il ne faut pas oublier que la stabilité politique non plus, ce n'est pas une condition suffisante pour le développement. La stabilité politique est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour l'état économique d'un pays. Parce qu'on a pu observer des pays qui ont connu de longues périodes de stabilité sans que cela ne se traduise par une amélioration remarquable de la situation économique. Parce qu'un long temps passé au pouvoir par un parti s'accompagne parfois d'une efficacité à cause donc, de la corruption du clientélisme. Ce sont ces longues périodes de stabilité politique sans résultat notable en termes d'amélioration des conditions de vie des populations qui sont aussi à l'origine des remous sociaux et des crises politiques que nous observons.
Le Burkina Faso, depuis quelques mois, a le taux d'inflation le plus élevé de l'espace UEMOA. Avec le coup d'État du 30 septembre dernier, faut-il craindre pour le pouvoir d'achat des Burkinabés?
Non, parce que le coup d'État n'a pas grandement perturbé les chaînes d'approvisionnement local et même extérieur du pays. Vous savez que la fermeture des frontières n'a duré que quelques jours. Et je voudrais rappeler que l'inflation que nous observons est le taux le plus élevé au niveau donc, de l'UEMOA, 18,5% donc, pour le mois d'août, résulte d'un ensemble donc, de facteurs qui, généralement, sont de deux ordres. En termes de perspective, je pense qu'avec l'avènement des récoltes là, nous sommes en train de quitter la zone de soudure et cela doit s'accompagner donc, d'une réduction des prix sur les marchés.
Que faut-il finalement prendre comme mesure pour donner un second souffle à l'économie burkinabé?
Avec les assises, il y aura dans quelques jours, cela va permettre d'aboutir à une situation consensuelle qui crée la confiance et la stabilité pour les acteurs. Et l'essentiel ici, c'est de construire des institutions fortes. Et ce qu'il faut faire également, c'est que nous devons travailler à faire une part nette entre la sphère politique et les hommes d'affaires. Et lorsque ces deux sont très inféodés, une petite instabilité quelque part entraîne l'écroulement de tout le système.
Merci, professeur.
Merci.
C'était l'invité de la rédaction.
C'est ici que se referme ce journal. Fidèle Compaoré est à la réalisation. Ibrahim Niaoné au live Facebook. Je suis Ibrahim Bailly. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.
Radio Omega, l'info en direct.